les jardinières.
C'est la saison des noix, des pommes et des poires, mais aussi des températures qui baissent et du brouillard. Bref, c'est le mois d'octobre. Bonjour Raphaël.
Francis Cabrel nous le chantait très bien. Bonjour Mylène, bonjour à tous.
Ce matin, c'est Olivier Ribaud qui va répondre à vos questions jardinage. Olivier, bonjour.
Bonjour à vous.
Olivier, merci d'être avec nous ce matin. Vous êtes pépiniériste et vous avez votre entreprise à Queuves. Olivier, pépiniériste. Et durant une heure, vous allez répondre aux questions de nos auditeurs.
Alors, soyez les bienvenus chez les jardinières.
7h, 8h, les jardinières.
Le brouillard a fait son grand retour cette semaine et les températures nous rappellent chaque matin que l'automne est bien là. Malgré tout, ce n'est pas encore le moment pour les jardiniers de prendre des vacances. Dites-nous, Olivier, quelles tâches effectuer au potager ces jours ?
Alors, il y a eu pas mal de petites choses qu'on a pu exécuter, comme vous le dites, ces derniers jours. On devra un petit peu s'adapter aussi aux conditions climatiques qui vont arriver. On l'a vu cette nuit avec tout ce qui est tombé. Donc, on va éviter tous les travaux de terre. Mais par contre, la semaine passée, et puis quand les températures pourront de nouveau être bonnes, on a tout ce qui est, comme vous l'avez dit aussi au début, le ramassage des fruits, des noix, des poires, des pommes. Mais il y a aussi tout le ramassage des légumes qui se trouvent dans les jardins, même les légumes qui sont en terre, comme les pommes de terre, les carottes. On va préparer tout ça pour commencer de engranger ou bien d'hiverner son résultat de sa production de son potager. Alors il y a pas mal de choses. Après ça peut varier d'un légume à un autre. Et puis après il y a encore certains légumes qu'on va laisser un peu dans le coin du jardin jusqu'au prochain beau soleil.
Justement, Olivier, vous nous parliez de pas trop toucher la terre quand il y a des fortes pluies. Pourquoi, tout simplement, peut-être une petite indication, pourquoi ne pas trop toucher la terre quand
il pleut
beaucoup ?
Oui, c'est une très bonne question. On sait que la terre, eh bien, nous, quand on travaille beaucoup les sols, la terre c'est vivant, donc c'est quelque chose qu'il ne faut pas non plus travailler quand c'est mouillé, à cause qu'on va l'écraser, on va la compacter, et puis après, ben, c'est plusieurs mois après qu'on va se rendre compte qu'on va se dire, ah ben tiens, ça ne pousse pas, ah, mon sol il est dur, ou comme ça. La terre, ça se travaille seulement, vous pouvez regarder dans l'agriculture, on travaille la terre quand elle est sèche, quand on peut vraiment en faire façon, comme je dirais, où ça ne colle pas après les outils. Sinon, il ne faut pas toucher.
Merci beaucoup, Olivier. Nous attendons maintenant les vôtres de questions. Composez sans attendre le 0901 70 20 20. Vous le faites pour 36 centimes la minute. Ou envoyez-nous un SMS. Vous tapez jardin, un espace, c'est votre question. Vous nous l'envoyez au 939 ou par le formulaire. Vous le remplissez sur notre site internet sous l'onglet émission. Question aux jardinières et vous avez même la possibilité d'y joindre une photo.
7h, 8h, les jardinières.
Les jardinières répondent à vos questions jardinage. Nous avons reçu une photo via le formulaire sur nos sites. Une photo reçue de Catherine de Baule. Elle nous parle de son pommier. Je vais vous lire la question. Bonjour, notre pommier a depuis plusieurs mois comme du duvet blanc sur certaines branches, ce qui semble affaiblir l'arbre. En général, nous évitons au maximum les traitements. Qu'est-ce que c'est ? On m'a conseillé un produit pour le traiter avant l'hiver et au printemps. Elle nous donne le nom du produit, le Rapol Plus de Biogarten. Qu'en pensez-vous ? Merci d'avance. Alors, on va peut-être juste décrire la photo pour les gens qui nous écoutent. Oui. On voit une branche du pommier dessus. Si on ne sait pas ce que c'est, on pourrait croire que c'est un petit peu de neige ou du givre.
Voilà. Exactement, ouais, on pourrait penser un peu comme un petit duvet blanc, comme de la ouate, de la ouate qu'on aurait collée sur la branche. Ça arrive assez fréquemment sur les fruitiers. Ça arrive aussi sur d'autres plantes qu'on peut avoir sur son balcon, même des lauriers ou des oliviers en pot, ça peut arriver. Elle a marqué aussi que c'est sur un fruitier, donc ça peut se trouver sur beaucoup de plantes. C'est pas général à un pommier ou à un poirier. Maintenant, je dirais aussi il y a un autre petit effet qui peut être sur la photo. On voit que ce pommier, il est un peu accolé à une façade, donc ça arrivera très souvent sur des plantes qui seront protégées de la pluie. S'il ne pleut pas directement sur ces branches, et ben ces petites bêtes, donc qui sont des cochenilles farineuses, j'ai oublié de donner le nom, c'est des cochenilles, elles vont se poser sur ces branches où il pleut très rarement. Donc ça favorise beaucoup l'apparition de ça. On a d'autres cochenilles qui peuvent être aussi en place, qui sont de la même famille, mais qui n'ont pas ce duvet blanc, qui viennent aussi se mettre des fois sur ces branches. Donc ça, c'est la première problématique. Bon, maintenant, quelle a la bête qui est installée? Parce que si elle touche sa branche et qu'elle écrase cette partie blanche dufteuse comme ça, ça va être gluant, ça va être collant à l'intérieur. Donc ça veut dire que la bête, elle est bien là. Maintenant, on va arriver, elle a mis un autre produit qui est un produit bio qui peut être utilisé, qu'on trouve en général dans le commerce, il n'y a pas de souci. Elle peut déjà le mettre à l'automne. Je dirais que c'est faisable. Ce n'est pas une grande nécessité parce que c'est cochenille. Soit on a un hiver très rigoureux et puis ils vont déjà un petit peu disparaître naturellement de toute façon pendant l'hiver. La deuxième possibilité, c'est que ce serait bien d'une fois ou l'autre peut-être mettre un bon coup d'eau à son arbre pour qu'il soit mouillé plus souvent. Donc ces bêtes n'aiment pas ça, elles vont aussi un peu disparaître. Ça, c'est des moyens, ce que nous on appellera mécaniques. Et puis après, il y a encore un autre petit produit qui est aussi bio, qui peut être utilisé, mais celui-là à partir du printemps au débourrement, elle va refaire un traitement, c'est vraiment biologique, c'est avec une huile d'hiver qui va envelopper ces cochenilles et puis qui vont les empêcher d'éclore l'année prochaine pour la saison de printemps. Parce que maintenant, ils vont se mettre en hivernage, ils vont se durcir, et puis ils vont se mettre en période de repos, ces bêtes, et ils seront difficiles à combattre, à attaquer, parce qu'elles seront pas mortes, mais elles seront dans un repos végétatif. Donc le traitement sera plus efficace à celui du printemps qu'à celui d'automne.
Merci beaucoup, Olivier, pour toutes ces précisions. On espère que Catherine a trouvé sa réponse. Moi, j'ai juste une petite précision. On voit sur la photo, il y a des arbres, d'autres arbres à côté.
Oui.
Est-ce que c'est contagieux, cette cochenille farineuse?
Alors, bien sûr, ça se déplace. Ça va se promener sur les branches. Ça va aller d'arbre en arbre. On va même voir, des fois, dans une rangée d'arbres, si on a plusieurs variétés de pommiers différents ou même de poiriers différents, on en aura plus sur l'un que sur l'autre. Ça, c'est juste parce que la bête a trouvé que les sucs, la sève où elle est posée sont plus intéressantes que sur un autre. J'ai vu sur 3-4 espaliers où il n'y a qu'une sorte qui est attaquée, mais ça peut se propager, bien sûr.
7h, 8h, les jardinières.
C'est samedi matin et comme chaque samedi matin, nous parlons jardin. Vous pouvez poser vos questions. D'ailleurs, Raphaël, vous avez répondu au téléphone, mais la personne était timide.
Exactement. Jean de Bonfol qui nous a appelé pendant la pause musicale et qui nous a posé cette question pour notre professionnel. Alors, il a autour de chez lui, à Bonfol, des arbres fruitiers comme des pommiers, des cognassiers. Et il va bientôt passer la tondeuse et il aimerait savoir si tout ce mélange entre l'herbe et les feuilles mortes peuvent aller au compost parce qu'on lui a conseillé d'éviter de le faire à cause des maladies. Alors, vous, qu'est-ce que vous en pensez?
Alors, pour le ramassage des feuilles et puis du gazon, quand il fera sa dernière tonte ou ses prochaines tontes avec les feuilles, il peut les mettre au compost. Bien sûr que sur les feuilles, il y a des spores de maladies, de tavelures, de champignons qui peuvent hiverner dans ces feuilles. Mais s'il fait son compost, comme on l'a déjà eu parlé plusieurs fois sur nos ondes, le compost, ça va chauffer pendant la saison d'hiver avec un... À la suite d'avoir mis tous ces déchets végétaux en tas, ça va faire de la chaleur au milieu du tas. Donc pour les éliminer, il faudrait que tous les mois, comme ça, ils brassent le tas de compost, le tas de feuilles, que les feuilles et les détritus qui sont à l'intérieur du tas se retrouvent à l'extérieur et vice-versa, pour que ce qui était dans les bords vienne au centre et vienne cuit par la chaleur de la fermentation. Et c'est ça qui va détruire les spores des éventuelles maladies qui pourraient hiverner. Donc bien sûr qu'on ne doit pas forcément les éliminer ou les brûler comme on faisait dans le temps, ça ne se fait pas. Il faut faire un tas et puis le brasser pour que ces maladies puissent se détruire naturellement avec le chaud de la fermentation.
Alors là, il parle de mettre les feuilles mortes et le gazon sur le compost. Je sais que certains jardiniers utilisent ce gazon et ces feuilles pour mettre sur le jardin, pour en faire du... Attention, le mot est difficile. Du mulch,
Du mulch.
Est-ce que là aussi, il faut brasser pour éviter les maladies?
Alors oui, on va aussi faire ce brassage pour éviter les maladies, on pourrait transmettre une maladie qui peut se trouver sur un, je vais donner un exemple, qui peut se trouver sur un arbre fruitier style un pommier. On aura de l'oïdium qui peut se stabiliser et s'hiverner sur une feuille, sur des feuilles mortes. Puis après, vous allez faire un mulch sous des rosiers, on peut le transmettre, ça c'est vrai. Mais c'est quand même pas une généralité, parce que si on a un hiver rigoureux, si le sol gèle, le compost va geler, toutes ces maladies, tous ces spores pourront aussi s'éliminer naturellement. Mais on va aussi profiter de brasser ce compost, c'est pas seulement pour éliminer les maladies, c'est aussi pour éliminer tout ce qui est mauvaise herbe. Parce que automatiquement, quand on fauche un gazon ou un pré ou un champ ou un verger, on va ramasser avec des graines de plantes, donc d'herbes, et puis après, elles peuvent regermer dans le jardin. Donc le fait de brasser ces composts, eh bien, ça va chauffer au milieu, ça va cuire les graines, ça va les rendre stériles et ça va aussi éliminer ces maladies comme on vient de parler. Donc c'est important qu'un compost soit brassé avant de le réutiliser pour mettre au jardin ou autre.
Les jardinières.
Ce matin, nous sommes en compagnie d'Olivier Ribaud, pépiniériste à Queuve et propriétaire d'Olivier Pépiniériste. Le jardinage est à l'honneur encore une demi-heure.
Et pour poser toutes vos questions à notre spécialiste, vous avez trois possibilités pour le faire par téléphone. 0 901 70 20 20, vous composez ce numéro, vous êtes avec nous en direct. Et pour les plus timides, vous pouvez le passer par SMS en tapant jardin un espace suivi de votre question au 939 ou par le formulaire disponible sur notre site internet. Vous allez sous l'onglet émissions questions aux jardinières avec la possibilité de joindre une photo.
On reprend avec cette question qui nous est arrivée par internet. Bonjour, nous aimerions agrémenter
notre... voyageur.
Oui, ça serait pas mal, mais il faut qu'il trouve la bonne entrée. Bonjour, nous aimerions agrémenter notre jardin de quelques plantes vivaces. Que peut-on planter maintenant? Nous aimerions des plantes qui ne prennent pas trop de hauteur. C'est une question de Bob de Couvet.
Alors, en plantes vivaces, bien sûr, c'est une période qui est adaptée pour faire encore des plantations. Vous allez trouver encore passablement de plantes avec des couleurs différentes. Je dirais, on va aussi trouver surtout les vivaces qu'on commence de voir fleurir, style les asters ou encore des rudbeckias. Bon, ça vient peut-être un peu plus haut par rapport à ce qu'elle dit pas trop. Vous allez en trouver assez facilement chez un fournisseur, un endroit de plantes. Et le fait de les mettre en place déjà cet automne, encore maintenant, et bien sûr, elles seront déjà en croissance au printemps. Et puis, vous aurez déjà un beau développement pour l'année prochaine. On va même trouver, l'autre jour, on a planté des vivaces style des phlox, par exemple, qui viennent à 40-50 cm maxi. Elles sont déjà taillées parce qu'on les coupe pour l'hiver. Alors, on peut les planter et puis elles vont s'épanouir pour le printemps. Donc, n'hésitez pas, même si les vivaces sont peut-être un petit peu moins jolies parce qu'elles ont déjà été recoupées, retaillées, on peut quand même les planter et puis elles reviendront pour l'année prochaine.
J'aimerais juste revenir, vous avez dit phlox.
Phlox, oui.
Est-ce que vous pouvez nous expliquer, parce que là, on ne voit pas du tout, enfin moi en tout cas, je pense que Raphaël aussi, oui. Nous ne voyons pas du tout à quoi ressemble cette
plante. Ça m'arrive de phloxer le samedi soir.
Alors c'est une plante vivace qui est un petit peu compliquée à décrire sans visuel, mais parce qu'en plus déjà il y a deux catégories de phlox. Vous allez connaître les phlox de printemps qui fleurissent assez rapidement au mois de mai. Ça fera des tapis qu'on va voir rose, bleu, blanc, même des fleurs avec deux couleurs. Ça, c'est la petite phlox subulata, comme on l'appelle. Donc, ça fait des plantes de rocaille qui couvrent le sol. Alors, ça, c'est la petite. Elle fait des fleurs toutes fines. Puis après, vous avez la grande, la phlox paniculata. Au contraire, elle vient à 40-50 cm. Et puis, elle fait une grande fleur, de diamètre de 8 à 10 cm. Et là, de nouveau, c'est une plante vivace qui est super intéressante parce qu'on a un panel de couleurs qui est très large. On va passer du blanc jusqu'à des violets très foncés ou avec des fleurs à deux couleurs. Et c'est une plante, moi, je trouve qui est intéressante au niveau fleurs vivaces parce qu'elle va fleurir pendant la période d'été et puis elle fleurit sur une longue période. Parce qu'on va avoir aussi souvent des fleurs vivaces, des plantes vivaces qui vont faire des floraisons un peu plus éphémères, un peu plus courtes. Mais si on arrive à marier plusieurs variétés différentes, on peut développer un parterre de couleurs qui peut durer assez longtemps sur l'ensemble de l'année. Et c'est de nouveau quelque chose qui devient très tendance. Plutôt que d'avoir un gazon tout rasé qui sèche en été, on va mettre justement un bel assortiment de fleurs vivaces avec des floraisons différentes, des hauteurs différentes. Et comme ça, vous avez un parterre, une plate-bande qui reste vivante pendant toute la saison.
Et c'est magnifique ces fleurs, j'ai eu le temps d'aller regarder sur internet. Alors phlox, pour ceux que ça intéresse, ça s'écrit P-H-L-O-X.
Voilà.
Voilà, bah, je n'ai pas trouvé tout de suite. Merci beaucoup, Olivier, pour toutes ces précisions et cette envie de planter ces fleurs de toutes les couleurs.
7h, 8h, les jardinières.
Il est 7h44, nous sommes ensemble, allez, encore un petit quart d'heure pour répondre à vos questions jardinage. Et puis toujours, vous pouvez nous appeler, nous écrire des SMS ou nous envoyer vos questions via le formulaire. Voilà.
Exactement. Et tout à l'heure, on a Jean de Bonfol qui nous avait appelé pour nous parler d'arbres fruitiers autour de chez lui et qui voulait savoir s'il pouvait faire du compost avec l'herbe qu'il avait tondue plus les feuilles qui tombaient de ses arbres fruitiers. Et on va rebondir avec cette question de Mireille de Nido qui nous dit « Nous avons un compost dans le jardin, mais ce dernier sont très mauvais. Que faire, mon cher Olivier ?»
Alors, s'il y a de l'odeur dans un compost, c'est justement parce que les matières qui ont été mises dedans ou dessus ou pour faire son tas de compost ne sont pas forcément les mêmes que celles qu'on a eues avant avec que des feuilles et du gazon. Donc, quoi faire pour éviter qu'un compost sente ? C'est de mettre plus de déchets végétaux, d'herbes, de feuilles, justement, ça va faire plus de volume dans un compost qu'elle aura certainement mis, elle, que des détritus ménagers, des épluchures ou des fruits trop mûrs ou comme ça. Si on met plus de volume, plus de matière verte, ça va atténuer et puis ça va engloutir l'odeur. Et puis ça va aussi aider à faire une meilleure fermentation, puis au final un meilleur terreau. Parce que si on met que toujours la même chose, on n'arrivera pas à avoir un compost au final qui est agréable à remettre au potager.
Alors pour avoir un bon compost, diversifions-le. Est-ce qu'on peut tout mettre, Olivier, sur un compost ? J'entends par là carcasse de poulet, citron, orange.
On sait tous que même pour les déchets végétaux, on ne va pas mettre tout ce qui est cuisiné, donc tout ce qui était cuit, tout ce qui est carcasse d'animal et de reste de consommable. Ça, on doit mettre à l'incinérable, donc à la poubelle. Mais on va mettre tout ce qui est végétal, donc tout ce qui est déchets verts de quand on prépare des légumes, le reste des légumes, le reste du jardin, les surplus, si vous avez des choux, parce que le chou par rapport à la odeur, on en a parlé avant, c'est quelque chose quand ça se dégrade, ça sent pas très bon, donc on va mélanger les mauvaises herbes, on va mélanger les feuilles pour faire un assez grand tas. Et puis après, essayer de le déplacer, le brasser, ça j'insiste toujours, c'est comme ça qu'on arrive à donner de l'air dans un tas, puis qu'il y a une vie microbienne qui va se développer, où il y aura les insectes, les vers de terre, tout ça, qui viendront manger, et puis qui vont transformer ces détritus en compost.
Et en parlant de choses cuites, le café, est-ce qu'on peut mettre le marc de café ?
Alors,
c'est
le café,
plus ou moins
cuit. On peut le mettre en compost ou même carrément le mettre au jardin directement, comme les cendres des fourneaux qu'on aura bientôt pendant l'hiver. Donc le café, c'est plutôt le marc, c'est un amendement. Ça n'apportera pas d'éléments nutritifs, ça n'a pas de qualité de faire croître une plante. Ça va améliorer la texture du compost ou du jardin. Ça va alléger le terrain, mais ça ne va pas l'enrichir. Mais on peut le mettre, bien sûr, sans problème.
Merci beaucoup, Olivier. 0901 70 20 20 pour 36 centimes la minute. Vous pouvez encore avoir l'occasion de nous appeler pour poser votre question à notre professionnel encore ce matin. Et si vous êtes encore timide, on attend toujours et encore plein de messages par SMS. Vous tapez jardin, un espace et votre question. Vous nous l'envoyez au 939 ou en vous rendant sur notre site internet sous l'onglet émission, questions aux jardinières. Vous y trouvez un formulaire. Et là, vous pouvez même y joindre une photo.
7h, 8h, les jardinières.
Et dans les dernières minutes des jardinières, nous avons une personne en ligne, Raphaël.
Exactement, on accueille Françoise de Colombier. Bonjour Françoise, votre question à Olivier Ribouf.
Oui, bonjour.
Bonjour.
J'ai un agapanthe et qui est allé 3 enfants en pot, donc il m'a donné qu'une fleur cette saison.
Oui.
Et on m'a dit qu'on pouvait le séparer en deux et en faire deux, donc.
Oui.
Et puis j'aimerais savoir si c'est possible et à quelle saison faut-il le faire.
Alors, tout à fait. Un agapanthe, c'est juste une petite information. Donc, ça fait une grande touffe de feuilles. Et puis, vous avez ces longues tiges bleues qui ressortent en haut et qui est magnifique. Alors, le fait de le rempoter, ça, c'est possible. Le couper en deux, c'est, il n'y a pas de problème. Vous allez enlever votre pot, vous le mettez par terre et puis vous essayez soit avec une hache ou un. Parce que c'est assez dur, les racines, c'est très très compact. Ou sinon, vous prenez une vieille scie, puis vous coupez en deux et vous allez les rempoter dans deux pots sans problème. Vous pouvez faire ça déjà avant l'hiver, là, vous les laissez encore un moment dehors et vous allez faire ça dans le courant du mois de novembre sans problème. Et puis après, ce qu'il faut surtout faire, parce que s'ils ne fleurissent pas beaucoup, c'est pas seulement qu'une question de récipient de pot trop petit, c'est aussi il faut qu'ils aient une période de repos, de froid, sans geler bien sûr, mais il faudrait qu'ils aient pendant l'hiver en tout cas 3 mois, décembre, janvier, février, mars, même jusque là, où c'est qu'il fait le plus frais possible. Parce que si vous les mettez dans une pièce chaude, dans une chaufferie ou dans une buanderie où il fait trop chaud, eh bien ils vont continuer de rester en végétation pendant la saison d'hiver, et puis au printemps, ils fleuriront très peu. Pour qu'elles fleurissent beaucoup, il faut que l'hiver, ils soient dans une pièce fraîche et les laisser un petit peu sur le soif, pas trop les arroser, les laisser un petit peu, le feuillage va venir sec, ça c'est pas grave. Au printemps, vous nettoyez tout ça, et puis quand il refait chaud, vous les relancez avec un arrosage, un apport d'engrais, et c'est là qu'elles vont refaire une grande poussée de fleurs. C'est ce qu'on appelle la période de repos pendant l'hiver. On fait ça avec les dahlias, par exemple, on les sort de terre, on les met en cave, on les oublie et on les remet au printemps en terre. Et c'est ça qui fait que cette période où c'est qu'elles se sont arrêtées de végéter, eh bien, qu'ils vont refaire une belle floraison au printemps. Et puis, votre rempotage, vous le faites à l'automne, vous n'êtes pas obligé de le faire encore maintenant, vous pouvez attendre encore un moment que ce feuillage va un petit peu jaunir, vous aurez des feuilles qui vont sécher, et là vous allez couper tout ça, puis couper votre agapanthe en deux. D'accord. Et au rempotage, vous utilisez après un bon terreau, vous pouvez déjà améliorer ce terreau avec un petit peu d'engrais en granulé que vous allez mélanger avec, bien les mouiller quand ce sera fait, puis après les passer à cette période d'hivernage.
Alors voilà. Merci beaucoup.
Merci à vous pour votre appel, Françoise. Un bon week-end. Merci, au revoir.
Ce matin, nous avons parlé de pommiers, mais aussi de plantes vivaces ou encore de compost. Et il est déjà presque l'heure de se quitter. Olivier, avant de vous laisser filer sous la pluie, pouvez-vous nous rappeler quoi faire au jardin ce week-end et les jours à venir ?
Alors au jardin, je pense qu'on va laisser un petit peu le jardin de côté ces quelques jours avec la météo qu'on a, qui va nous arriver et puis qu'on a déjà maintenant. Mais par contre, comme on prend exemple sur cette charmante dame qui va commencer de prendre soin de ses plantes pour rentrer, vous allez commencer de préparer, si vous avez des plantes de terrasse sur votre balcon, vous allez commencer de gentiment les nettoyer, les retailler et puis commencer de prévoir après ce qu'on va en faire pour l'hiver, les mettre à l'abri gentiment. Ne commencez pas trop tôt de les mettre à l'intérieur parce que des fois on a 1 ou 2 coups de froid les nuits, mais c'est encore pas grave, il faut les rentrer assez tardivement pour qu'elles soient le moins longtemps possible dans une pièce enfermée et puis qu'après on puisse continuer de partir sur les travaux d'automne qui seront les tailles, les plantations des fruitiers. C'était aussi un sujet qui pourrait être abordé, qu'on va commencer d'ici la mi-octobre de planter tout ce qui est racines nues, fruitiers, pommiers ou autres pour arriver après jusqu'à la fin novembre que ça soit mis en place dans nos jardins.
Olivier, vous parliez de plantes d'extérieur qu'on pourrait éventuellement faire rentrer. Et quelles sont les plantes aujourd'hui, à cette saison, au mois d'octobre, à surveiller de plus près ?
Alors, il y a tout ce qui est plantes avec un peu un feuillage, je dirais un peu style plante grasse. J'ai vu l'autre jour, il y a des gens qui ont commencé de rentrer ou de protéger leur géranium ou leurs plantes de balcon, mais vraiment les plantes d'été. Si c'est palmier ou des oliviers comme ça, c'est vraiment encore pas nécessaire. Il faut vraiment attendre qu'on ait ces petits coups de froid pour justement bloquer la végétation de ces grandes plantes et puis vraiment les rentrer qu'à partir de la mi-novembre, ça suffira.
Merci beaucoup Olivier. Olivier, on rappelle que vous êtes pépiniériste à Queuves et propriétaire d'Olivier Pépiniériste. Merci encore une fois beaucoup d'avoir passé cette heure avec nous et d'avoir répondu à nos questions. Bon week-end, on vous dit à tout bientôt.
Eh bien, merci beaucoup et à bientôt, à la prochaine.
Merci beaucoup Olivier. Les jardinières vous donnent rendez-vous samedi prochain dès 7h. C'est Fabrice Rondet qui répondra à vos questions et vous pouvez d'ores et déjà les poser via la page des jardinières sur RJB, RFJ ou RTN.ch ou par SMS, bien sûr. Bon week-end, Raphaël.
Mais bon week-end à vous, Mylène.
Et bon week-end à tous. Et surtout, prenez soin de vous.
7h, 8h, les jardinières.